Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Queer Me Out sur Radio Syllabe, la radio sauvage. Et c'est parti pour une heure d'émission ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour une carte blanche spéciale écologie, queer et écoféminisme. J'ai à mes côtés ce soir Félix à la technique, accompagné de Mado et Ben, coucou les cœurs. Et à la table on a Clara, coucou Clara.
Coucou.
Et notre invitée mystère, Clémentine Comer. En plus ça rime, salut Clem.
Coucou.
Non, je t'ai appelée Clémentine. La personne qui vous parle aujourd'hui, c'est moi, c'est Lauriane, et c'est la première fois que je vais animer cette émission. Je vous fais un peu le topo de ce qui va suivre, mais si vous nous écoutez depuis le début de Queer Me Out, vous saurez qu'à m'entendre, je vais forcément vous parler de queerness et d'écologie. Et oui, désolée, mais là, ça va être l'écologie toute la soirée. Nous aurons d'abord Clara qui va nous emmener en reportage sur l'écologie pirate. Ensuite, nous aurons le plaisir de découvrir notre invitée Clémentine Comer, sociologue sur les thématiques du genre et de l'écologie. Et ensuite, moi, je vous ferai découvrir une personne queer en écologie dans un format podcast, le tout parsemé de mélancolieuses chansons sur l'écologie et la destruction du vivant. Un régal. Moi, j'adore. Ça vous va. pour le rappel du contexte, juste avant, l'écoféminisme et plus spécifiquement l'écologie queer, c'est une théorie un peu, mais des pratiques bien plus qui mettent en lumière les liens entre les forces qui oppressent l'environnement et aussi celles du patriarcat et du colonialisme. Pardon, décidément, j'y arrive pas. En nous proposant en plus des alternatives et des manières de lutter contre. Ça va, vous allez bien, vous suivez?
Eh bien, générique.
Allez. Et c'est parti Clara, où est-ce que tu nous emmènes?
Coucou les stars, alors pas de courrier du queer cette semaine, désolé. Vos petits cœurs esselés, seuls et solitaires vont devoir attendre, car place à l'écologie. Alors moi, il faut savoir que j'y connais pas grand-chose, je serai donc votre caution auditoriste pendant cette émission. C'est-à-dire que les questions que vous vous posez et vous vous dites « Oh là, mais je suis trop bête » ou « je sais pas », bah moi aussi je me les pose, donc pas de soucis. Je n'y connais pas grand-chose et pourtant je m'éduque petit à petit car je suis une super personne, mais surtout car c'est un sujet qui me concerne tout autant que le reste du monde. Un moyen de bien s'instruire sur l'écologie et son intersectionnalité avec d'autres luttes, c'est par la lecture et l'écoute. Et ça tombe bien, en février dernier, Félix et moi, on a eu la chance d'aller au pôle de la Mare Baudet pour écouter un échange donné par Fatima Wasak à l'occasion de la sortie de son livre « Pour une écologie pirate ». Pour celles qui ne la connaissent pas, Fatima Wasak, c'est une autrice et c'est aussi la co-créatrice de l'organisation politique Front de Mer qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants. Écologie, genre et lutte, nous avons pu échanger quelques minutes avec elle.
Bonjour Fatima.
Bonjour.
Tu es l'autrice de Pour une écologie pirate qui est sortie très récemment. Est-ce que tu peux me donner ta définition d'une écologie pirate s'il te plaît?
C'est cette écologie qui consiste à reprendre du temps, du pouvoir, de l'espace de jeu, de la politique à un système d'oppression. Un système d'oppression capitaliste, patriarcale et coloniale et raciste. Et c'est une écologie... à hauteur d'enfant, c'est pour ça qu'elle s'appelle Pirate. Elle dit toute la soif de liberté de nos enfants, de nous tous, de nous toutes. Et elle dit aussi une volonté de rompre, en fait. Il y a toute l'idée de la sécession dans la piraterie, de rompre avec un système qui nous étouffe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'écologie pirate? C'est une écologie européenne, mais qui regarde vers l'Afrique.
Est-ce que c'est pour toi d'autant plus important, pour les alliés blancs et blanches, femmes et minorités de genre, de s'emparer de la cause écologique?
Moi, je ne parle pas d'alliés, en fait. J'essaie d'éviter. Alors, parfois, pour être rapide, je parle d'alliance des luttes ou de convergence des luttes. Mais moi, ce que je défends, c'est notre égale dignité humaine. L'idée qu'on n'est pas libre si tout le monde ne l'est pas. Et moi, je crois au projet politique, c'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est davantage le projet politique que porte chacun et chacune. Un exemple que je donne souvent, c'est celui de Fernand Yvetot, en fait, un bouquin qui a été écrit par Joseph Andras, qui s'appelle « De nos frères blessés ». Voilà un homme blanc, communiste, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, pour la libération de l'Algérie, et il ne le faisait pas pour les Algériens et les Algériennes. Il le faisait pour lui-même, en fait, parce que c'était impensable pour lui, c'était suffocant même pour lui de vivre dans ce monde-là, en fait, dans ce monde colonial. Et voilà, et Fernand Yvetot, bah, c'est mon frère, en fait, c'est pas un allié. Voilà, et voilà, moi je préfère ça plutôt que cette idée d'aide ou de un truc comme ça, un peu unilatéral. Voilà, moi je crois en ça, en fait, l'égale dignité humaine. Voilà, et j'espère qu'on va se retrouver derrière un projet commun, en fait, contre toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, encore une fois. patriarcale, pour les plus essentiels, capitaliste et colonial.
Ton dernier ouvrage, L'absence des mères, parlait de la force de la maternité. Ce sujet est donc forcément lié à l'écologie. Quel rôle a-t-on en tant qu'acteur et actrice adulte auprès des enfants?
Déjà d'arrêter de les dominer et de les opprimer, de les mettre sous contrôle, déjà ce serait bien, parce qu'en réalité le rapport qui existe entre enfants et parents, c'est quand même enfant et adulte d'ailleurs, c'est un rapport de domination. Et d'ailleurs, si je parle beaucoup de One Piece et des Shiroda dans ce livre-là pour l'écologie pirate, c'est parce que dans One Piece, il y a en fait cette aventure menée par des enfants. Et ces enfants, s'ils ont cette soif de liberté, s'ils ont cette volonté de vivre ces aventures, c'est notamment pour se dégager du contrôle des adultes qui cherchent systématiquement à les maltraiter, à les étouffer. Et donc c'est ça aussi l'écologie pirate. C'est aussi comment les enfants en fait se réapproprient leur espace, ne serait-ce que leur espace de jeu, leur liberté, etc. Donc pour moi, déjà, le rôle des adultes, c'est d'arrêter de mettre sous contrôle les enfants au prétexte de les protéger. Et au contraire, de créer les conditions, puisqu'ils ont le pouvoir de le faire, le pouvoir politique de le faire, de créer les conditions pour que les enfants déjà puissent jouer déjà, donc ne pas désenfantiser les enfants, qu'ils puissent jouer librement, qu'ils puissent circuler librement, et les conditions de leur émancipation, et accepter notamment que les enfants ne soient pas d'accord, accepter leur sens critique, accepter leur envie de faire autre chose, leur besoin parfois de s'échapper, notamment de s'échapper du dedans, parce qu'on sait que les violences et les crimes que subissent les enfants, c'est essentiellement au sein du foyer. Et donc, c'est dans quelle mesure les adultes, en fait, créent les conditions pour que les enfants puissent fuir ces violences et ces crimes-là. Et donc, c'est une circulation entre le dedans et le dehors. Et donc, c'est comment nous, on peut réfléchir à ça, en fait, et notamment à l'échelle de la ville. Faire une ville aux enfants, c'est faire une ville pour que les enfants puissent s'échapper de... des foyers, en fait, notamment, et puissent davantage circuler entre l'intérieur et l'extérieur.
On remercie personnellement Fatima Wessak pour son temps et pour sa gentillesse. Et moi, je raccroche mon chapeau de pirate pour te rendre l'antenne, Lolo.
Merci, Clara. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu connaissais, l'écologie pirate?
Pas du tout. En fait, je suis assez peu éduquée sur ces choses-là. C'est pour ça que j'essaie de lire et d'écouter ce que je peux. Mais en fait, en tant que professeure des écoles, c'est une thématique qui m'importe beaucoup. Parce que je me demande constamment quel monde on est en train de laisser à mes futurs élèves. Et en fait, c'est assez terrible comme pensée. Et je trouve aussi qu'il y a une oppression assez systémique actuellement dans la relation adulte-enfant. Et qu'en fait, elle se joue sur tous les fronts, y compris dans l'écologie, quoi. Donc, c'est un plaisir toujours d'échanger avec des personnes comme Fatima, qui est vraiment très gentille. Et qui est très pédagogue aussi, qui a une manière d'écrire et de parler qui aide beaucoup quelqu'un qui ne se sent pas très expert, on va dire, dans ces cercles-là, à vouloir et pouvoir s'éduquer. Parce que je pense que c'est aussi un truc où on se dit, si on n'y connaît rien, on ne va rien comprendre quand on ouvre un bouquin. Donc je vous conseille vivement de regarder pour une écologie pirate de plus près. Si c'est ce que vous pensez.
Oui, merci. Et d'ailleurs, il y a un super podcast de Charlotte Bien-Aimée sur un podcast à soi sur justement les oppressions sur les enfants et la relation adulte-enfant. Donc on vous le conseille. Félix, tu voulais intervenir?
Ouais.
Vas-y.
C'était super de voir Fatima Wessak. Et moi, je trouve qu'en lisant ses livres, ce qui m'a beaucoup parlé, c'était comment, de l'autre côté, du coup, quand tu es dans les petits enfants blancs des classes sup et tout, comment tu calcules pas du tout toutes les stratégies qui sont mises en place par les parents. Peut-être qu'ils les calculent pas eux-mêmes. Hein. Moi, ma mère, elle est métisse comorienne. Je pense qu'elle a vécu du racisme toute son enfance dans la campagne bretonne. Et pourtant, elle a reproduit absolument tout ce qui est décrit des trucs de dominants, quoi.
C'est
hyper riche de lire tout ça.
Et là, on va écouter une musique de Billie Eilish qui s'appelle « All the good girls go to hell ». Elle parle de la Californie qui brûle et elle dit « L'homme est fou, pourquoi voulons-nous le sauver? Il s'empoisonne lui-même. » Je vous laisse ça dans une super ambiance. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself
as enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say now.
My God is gonna own me.
There's nothing left to say now.
Et aujourd'hui, pour cette spéciale, nous recevons Clémentine Comer, qui est chercheuse en sociologie sur les thématiques du genre et de l'agriculture. Salut Clémentine, ça va bien ?
Salut, merci pour l'invitation.
Est-ce que c'est la première fois que tu es à la radio ?
Oui, c'est ma première.
Bon, ça va bien se passer, on est tous passés par là. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, toi et tes sujets de recherche ?
Oui. Donc, en effet, je suis sociologue de formation et depuis une dizaine d'années, je mène des recherches qui s'intéressent à la diversité des parcours des femmes qui se tournent vers l'agriculture, mais aussi aux inégalités de genre dans la profession et puis, un peu plus généralement, au rapport aussi que les paysannes et agricultrices entretiennent avec le féminisme.
Waouh ! Voilà. Vaste sujet.
Oui.
Et du coup, c'est quoi un peu ce que tu sors tout ça ? C'est quoi un peu le parcours justement de ces femmes dans l'agriculture ?
Alors évidemment, la catégorie de paysanne ou d'agricultrice, elle n'est pas uniforme. Il y a une très grande diversité de parcours. Il y a pour nombre d'entre elles, celles qui sont des héritières, donc qui ont grandi dans des familles agricoles et à qui on a transmis... le goût, la vocation du métier et aussi des apprentissages conformes au fait de devenir une chef d'entreprise qui reprend la ferme de papa, généralement. Mais en fait, et ça, c'est ce qui sans doute va connecter avec le sujet qui nous intéresse ce soir, qui sont les liens entre agriculture, écologie et féminisme. On a aussi, dans le monde agricole aujourd'hui, une sorte de renouvellement des parcours de celles qui entrent avec ce souci de plutôt se tourner vers des modes d'exploitation, en tout cas des formes et des manières d'envisager l'agriculture plus en prise avec les enjeux environnementaux et écologiques. Mmh. Mais aussi qui ont à cœur de porter dans leur métier et par leur métier des aspirations féministes.
Voilà. Ok. Et c'est quoi du coup l'impact particulier qu'ont ces femmes dans ces pratiques justement ? Tu dis qu'elles ont à cœur d'avoir un peu plus, je sais pas, du respect de l'environnement ou c'est des choses comme ça ? Comment ça se matérialise ?
Alors, de plusieurs manières. déjà, elles essayent de... Enfin, en tout cas, elles s'inscrivent à distance des qualités attendues du bon agriculteur. C'est-à-dire que traditionnellement, telles que les normes du métier ont été construites, il est plutôt attendu d'avoir une... forte résistance devant l'effort physique, une endurance physique, d'avoir aussi une vision très extensive du temps de travail, un recours assez systématique à la mécanisation. Donc voilà, ça c'est un peu les normes qui structurent l'identité professionnelle agricole. Et plutôt ces femmes, bah, elles vont questionner ces normes-là en proposant une désintensification du temps de travail, en essayant d'avoir de l'inventivité technique aussi pour limiter les usages d'intrants qui polluent les sols, qui font qu'on prescrit beaucoup de médicaments aux animaux, etc. Elles vont aussi questionner ce qu'elles travaillent, donc aussi l'articulation entre la sphère professionnelle et la sphère domestique, qui est vraiment très fortement imbriqué en agriculture, parce que souvent on travaille sur son lieu de vie aussi, donc domicile, enfin... Domicile et travail sont liés. Donc ça aussi, ça va les pousser à aussi demander un partage plus équitable des tâches domestiques, parentales. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'elles envisagent leur travail comme une forme d'engagement. C'est-à-dire qu'elles vont aussi chercher une sorte de cohérence de valeur dans la manière dont elles envisagent le travail, à savoir qu'elles vont plutôt s'orienter vers des systèmes à plus faible investissement, plus faible mécanisation. Et aussi des systèmes qui vont questionner le mode d'accumulation capitalistique propre au monde agricole, c'est-à-dire qu'on crée son revenu et on fait fructifier son entreprise par capitalisation privée. Ouais. Et du coup, on voit aussi que ces femmes sont porteuses d'inventions, de nouveaux modèles d'entreprise, aller plus vers des systèmes coopératifs où en fait l'outil de travail n'est pas est possédé par le collectif et pas par l'individu.
Ok. Félix, si je veux poser une question.
Non, c'était juste de dire attention au micro.
Merci du rappel.
Parlez bien dans le micro.
du coup, en fait, dans tes recherches, tu constates vraiment qu'il y a un lien entre le genre et la façon de pratiquer le métier d'agriculteur, enfin d'agricultrice pour le coup. Ça change vraiment ces pratiques-là.
Alors, je dirais même que il y a un lien entre genre, position dans l'espace social et manière d'envisager l'agriculture, parce que ces femmes, elles n'ont pas, donc c'est certes des femmes, mais elles n'ont pas aussi n'importe quel parcours social. Elles ont des dispositions à justement contester les normes et les cultures traditionnelles du monde agricole. Je dirais que si il faut les situer dans un espace social, plutôt elles sont néo-rurales, donc elles ont aussi, elles n'ont pas hérité des évidences partagées du monde agricole, pas directement. Et puis elles ont grandi dans des univers plutôt urbains, citadins. Elles appartiennent à ce qu'on appelle les fractions plutôt culturellement dominées des classes moyennes ou supérieures, ce qui fait qu'elles ont aussi eu des parcours scolaires et militants qui les a conduits à la fois à se rapprocher du féminisme comme mouvement social, donc à militer dans ce mouvement-là, donc se forger une culture aussi et une connaissance des systèmes d'oppression de genre. Que par ailleurs, elles réinjectent dans leur vision du métier agricole. Et donc, quand elles rentrent dans la profession, c'est avec ces grilles de lecture-là qu'elles ont envie de devenir paysannes.
Ok, donc il y a aussi, aussi un aspect plus classe et aussi capital culturel qu'elles ont emmagasiné avant de reprendre la ferme familiale ou s'investir dans l'agriculture. Ok, donc c'est vraiment la croisée un peu, c'est un... l'intersectionnalité de plusieurs...
Oui, c'est ça.
Ok, trop bien. Et là, on va peut-être parler un peu moins d'écologie, mais moi, je sais que tu as une enquête sur les militantes lesbiennes, et nous, on kiffe ça, les lesbiennes, à Queer Me Out. Du coup, est-ce que tu peux juste nous faire une petite présentation, voilà, c'est quoi le sujet de ces recherches et pourquoi?
Alors, c'est une enquête collective, donc je l'amène avec trois autres... trois autres personnes, donc Camille, Françoise et Alice. Et donc, en fait, c'est qu'on est parti du constat. Moi, par ailleurs aussi, du coup, comme Je suis une sociologue du féminisme paysan, mais aussi des trajectoires des militantes féministes des années 70. Je me suis aperçue qu'en menant ces recherches sur ce type de militantisme, souvent le parent pauvre, c'était le militantisme lesbien, qui passait toujours à la trappe, en tout cas dont l'historiographie était encore assez silencieuse. Et du coup, autant je connais bien l'histoire du féminisme rennais, et je m'étais dit, mais en fait, c'est sûr qu'il y a eu des associations lesbiennes, et en fait, on en est héritière et on ne connaît pas leur histoire. Et donc, on était plusieurs à faire ce constat, avoir envie de justement lever le voile. Et du coup, en effet, on mène actuellement une recherche sur deux assos militantes lesbiennes qui se sont créées dans les années 80.
Ok.
Donc, qui s'appelle La Cité d'Elle et Femmes entre elles. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment ces associations-là ont politisé le lesbianisme en des termes assez différents. C'est assez intéressant de voir qu'il y avait deux propositions assez différentes à l'époque. Et on a fait des récits de vie avec les anciennes membres de ces deux associations pour... voilà, pour retracer leur trajectoire de vie et saisir aussi l'impact du militantisme sur toutes les autres sphères de vie, la vie professionnelle, la vie intime, les pratiques sexuelles, etc. Donc voilà, c'était des entretiens super riches qui duraient des heures et des heures. voilà.
Et est-ce que tu as rencontré des agricultrices lesbiennes dans tes entretiens, tes recherches ?
Alors, assez peu. Ouais. Parce que pour plusieurs raisons, c'est que en fait, moi, ma porte d'entrée pour rencontrer les agricultrices et les paysannes, c'était qu'elles participent à un groupe, un collectif de paysannes, un collectif d'agricultrices, en tout cas, qu'elles aient des usages de la non-mixité à des fins militantes ou à des fins de sociabilité. Et en fait, il s'avère que ça a fait un filtre parce que souvent, les femmes qui participent à ces dynamiques non-mixtes, c'est des femmes qui. Alors, c'est aussi parce qu'on est dans une région d'élevage à dominante familiale. Et donc, c'était souvent des femmes installées en couple. Mmh. Mais en couple hétérosexuel. Donc, en fait, c'est aussi ça que... En fait, j'ai plus travaillé, moi, sur l'hétérosexualité comme modèle normatif très fort en agriculture. L'ordre de genre est vraiment bâti sur la complémentarité des sexes, etc. Donc, moi, c'est plus une histoire de ça, une sociologie de ça que j'ai fait. Ouais. Que malheureusement d'autres formes de faire famille, de faire couple et de faire sexualité. Mais pour un de mes mémoires de recherche que j'avais fait avant ma thèse, j'avais rencontré un couple de lesbiennes installé en Mayenne, qui est mon territoire d'origine, et qui en plus faisait de la grande culture. Donc elle dérogeait doublement aux normes parce que la grande culture, c'est plutôt un type de production à dominante masculine.
Ah ouais.
En tout cas, et
est-ce que je peux te demander ce que c'est la grande culture ? Parce que comme je suis la caution idiote de ce podcast,
la grande culture, ça va être, elle produisait notamment tout ce qui était. C'est de la céréale. Principalement.
D'accord.
Donc oui, c'est en fait c'est souvent un mode de production qui est très 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 mécanisé, qui est ce qu'on fait dans la Beauce là, dans la région parisienne, avec les énormes tracteurs, etc.
D'accord,
on fait des quantités de maïs, de soja, etc. Sauf que elle faisait de la grande culture au sens où elle produisait de la céréale, mais comme c'était en bio, c'était plutôt du sarrasin, de la moutarde, etc. Mais de fait, voilà, ça suppose quand même un petit peu de... Enfin, c'est sûr, l'usage de l'outillage agricole, en tout cas, à minima, et de la mécanique, même si c'est pas nécessairement la grosse mécanique. Et du coup, c'est vrai qu'elle disait qu'elles étaient davantage exposées à la défiance de la profession sur ce plan-là, sur le volet technique et agronomique, que le fait d'être deux femmes en couple où elles avaient, elles, l'impression que c'était moins discriminant que le fait de s'atteler à faire leurs preuves dans un secteur qui est normalement, traditionnellement, celui des hommes.
Ah ouais, voilà. Trop intéressant. Et pour finir, je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités, avec une petite spéciale pour toi pour ce soir. Du coup, c'est quoi déjà pour toi le queer, la queerness, et est-ce que toi, tu te reconnais dans l'écoféminisme ou l'écologie queer?
Ouais. oui, plutôt, je me reconnais dans l'écoféminisme à plusieurs titres. Déjà par rapport au mode de vie auquel j'aspire et que je teste depuis une dizaine d'années, que j'appellerais un peu une communauté intentionnelle. Où, disons que je vis plutôt... pas en territoire rural, c'était très périurbain jusque-là, mais en tout cas dans des lieux de vie collectifs composés de femmes minorités de genre et des lieux de vie où j'ai à cœur aussi de construire d'autres manières de faire famille, par exemple, avec une dissolution de la famille nucléaire, si possible, mais aussi des formes de réappropriation. Des modes de production à petite échelle, hein, mais voilà, de pouvoir avoir des espaces où on se réapproprie des savoirs techniques, des savoirs agronomiques, où on crée ensemble des lieux de vie qui sont porteurs de transformation sociale et territoriale, en créant aussi du lien sur des territoires plus ruraux que des territoires ruraux. Et je pense qu'aussi j'ai eu des expériences de salariés agricoles. Et du coup, là, clairement, on ne peut que être écoféministe. Donc c'est aussi faire valoir sa capacité en tant que femme à être reconnue comme autant légitime que ses homologues masculins dans ce type de travail. Mais aussi, je pense, injecter des formes de relations qui connectent plus l'humain et le non-humain. En tout cas, mettre en question aussi le rapport à l'animal. Moi, c'était en plus dans des fermes d'élevage. Donc voilà, questionner... notre rapport au vivant et les formes d'oppression aussi qu'il y a évidemment vis-à-vis des animaux dans des systèmes qui ne sont pas forcément industrialisés, mais en tout cas où il y a de la mise à mort, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'interrogent. Je n'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas c'est des interrogations que j'ai envie de porter en étant travailleuse du monde agricole.
Ok, bah écoute, peut-être qu'on viendra faire un tour avec Queer Me Out sur ton lieu de vie. On va vous laisser tout de suite avec une nouvelle musique de Pomme qui s'appelle La Perte de Vue. Donc si nous suivez aussi depuis le début, vous saurez que je suis une grande fan de Pomme. Et Pomme, elle est aussi méga engagée pour l'écologie. Et cette chanson, c'est une chanson sur les cétacés. Et avec Clara, on est un peu fan des cétacés.
Oui,
c'est
j'adore les cétacés.
Oui, les baleines, tout ça, tout ça.
Oui.
Les petits bélugas. C'est trop mignon, petits bélugas.
Je les aime tous autant qu'ils sont.
Du coup, on vous laisse avec cette chanson.
Il y a des cœurs au fond de l'océan. Il y a l'erreur qu'on fait depuis longtemps. De croire pleure pas. Comment parler ? Comment te dire les choses ? Le mal qu'elle me cause, si je savais.
Et vous êtes toujours sur Queer Me Out pour la carte blanche spéciale écoféminisme. On vient d'écouter Pomme, c'était une très belle chanson. Pour la dernière partie de l'émission, je vous emmène quant à moi dans le premier épisode d'une série de reportages que je suis allée faire en Bretagne au mois de janvier. Je suis partie à la rencontre de plusieurs queers qui portaient des initiatives dans l'écologie et j'ai cherché à comprendre ce qu'elles faisaient, comment elles le faisaient. C'est quoi être queer dans l'écologie en campagne ? On commence avec la rencontre d'Émilie, queer et non-binaire, qui vit à l'écolieu, la source des Korrigan à Pabu, dans les Côtes d'Armor, dans une tiny house. Donc, une petite maison légère, sans fondation béton, qui est un habitat écologique. On vous laisse avec ça et on en parle après.
Oh, c'est une mare. Ouais, les canards devraient pas être trop loin. Ils sont souvent sur le tas de compost, là, en face du poulailler, en train de narguer les poules. Je pense qu'en fait, les canards voient ce qu'on donne à bouffer aux poules et sont en train de lorgner devant. En vrai, je me demande si c'est plus ça que pour faire du lien avec leurs potes, les poules.
Du coup, on est où, là ?
On est à la source des Korrigan, dans un village qui s'appelle Pabu, près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. En vrai, pour faire le tour, il faudrait descendre jusqu'à la rivière, là, dans la forêt, faire le tour là-bas. Ensuite, on a appris beaucoup sur la construction, en fait, en vivant dans des habitats légers. Bah, forcément, on apprend quels sont les trucs qui coincent, les améliorations à faire sur les habitats, et celle-ci, elle a été... beaucoup concernée, celle où en vivant en tiny, ça va nous aider à en construire d'autres plus tard là. Et tout derrière, une maison, la maison qui était sur le lieu avant, qu'on a retapé aussi pour mettre en maison collective.
Est-ce que tu peux te présenter et un peu ton parcours, d'où est-ce que tu viens et comment tu es arrivée ici ?
Je m'appelle Émilie, j'habite donc sur la source des Korrigan, l'écolieu de la source des Korrigan depuis 2 ans. J'ai des activités d'accompagnement à la transition de vie, professionnelle ou personnelle. Et j'accueille ici, sur le lieu, des séjours individuels en tiny house et des séjours de groupe. En 2015, j'ai été initiée aux enjeux écologiques contemporains en faisant des bénévolats, des éco-bénévolats donc pour la défense du loup dans les Hautes-Alpes et à la LPO en Bretagne, au centre de soins. Et puis bon, bah voilà, là j'ai rencontré des naturalistes, des écolos, et je me suis dit ok, à partir de ce moment-là, j'ai envie de donner mon énergie et mon temps à quelque chose qui ait du sens et qui puisse créer un contexte optimal pour les générations d'après en fait.
Est-ce que tu peux présenter le lieu où on est, la source des Korrigan, et ce que c'est, ce que vous y faites ?
Ouais, alors la source des Korrigan, c'est un lieu qui a été acheté par une famille propriétaire en 2019. La fille du propriétaire est venue sur le lieu avec un groupe d'amis pour y créer un écolieu. Et à partir de ce moment-là, on est en 2020 au premier confinement et avec Louis, mon partenaire, on arrive en fin d'année 2020. Et là, il y a une autre page de l'histoire du lieu qui s'ouvre avec une équipe qui se renouvelle. Et donc, nous, on est arrivés en mettant en place d'autres choses, en rencontrant les locaux, en s'impliquant sur le territoire et surtout sur le lieu, majoritairement, parce que ça fait 2 ans qu'il y a énormément de travaux ici. Et le but de ce lieu, c'est de pouvoir se réapproprier les savoir-faire traditionnels. Donc apprendre à se nourrir de la graine à l'assiette, notamment, et de pouvoir accueillir via l'espace dont on dispose, donc les grands bâtiments qu'on retape et les tiny houses qui sont construites ou achetées, de pouvoir accueillir des personnes qui ont besoin de verre Et des personnes aussi qui peuvent, pour qu'elles puissent s'inspirer de d'autres modes de vie et de montrer que c'est possible et qu'il y a d'autres façons d'habiter, d'autres façons de relationner, de collaborer aussi. C'est une part importante, en tout cas pour moi, dans le fait de vivre ici. Ce que je viens chercher ici, c'est d'autres façons d'être dans nos relations, d'autres façons de relationner, qui soient plus respectueuses de qui on est et qui nous permettent de créer sur la longueur, quoi, sur le long terme.
On est constamment en travaux.
Encore des travaux.
Toujours des travaux. Encore des travaux.
Toujours des travaux. Ça fait 2 ans que j'habite ici et il y a toujours des choses à faire. En même temps, le lieu est tellement grand. Le lieu fait 9 hectares. On est sur 6 hectares de forêt en pente. Et le reste où il y a donc disséminé ça et là des tiny houses. Donc il y en a une ici en face de la roseraie au bout. Et juste derrière, là aussi, où tu avais vu, où il y a l'espace, la zone de vie, en fait, où il y a 2 tiny, où on vit tous les 4, parce qu'on est 4 à vivre sur le lieu, et où il y a du côté droit, là, une étable qu'on utilise en tant que cuisine collective l'été.
C'est quoi, en fait, être à la place d'une personne queer dans les luttes écologiques et dans ces milieux ruraux ?
Alors, quand tu dis dans les milieux ruraux, comment c'est ? Bon, c'est clairement isolé, en fait. Je pense que ce qu'il y a de plus dur, déjà dans le fait de vivre dans des lieux alternatifs, c'est de faire du lien et de savoir quel autre lieu alternatif est autour. Et d'autant plus en ruralité, le défi, c'est de savoir où sont les autres. Où sont les autres queers, où sont les assos. Souvent, elles sont éloignées. On reste quand même dans des... il faut qu'il y ait du monde pour faire vivre ces assos-là, donc... souvent, elles sont dans des grandes villes. Donc moi, je me sens assez isolée de ça. Et assez isolée de ma tribu, quoi, de mon équipe. Et ça, c'est ce qui me fait dire que le défi, c'est de se retrouver, en fait. Donc je le vis de manière assez isolée. Mais du coup, dans mon propre collectif et dans mon propre territoire en local, j'essaie quand même de, par ma façon de faire les choses, de vivre et de créer le collectif et les façons dont on se retrouve via mon langage et via la culture en fait, féministe et queer, qu'il y a d'autres façons de faire et de relationner. En fait. Mais c'est quelque chose que je porte souvent seule, du coup. Et je pense que c'est important que les personnes qui cherchent puissent s'identifier à un lieu, en fait. Et je pense au fait que souvent dans les créations de collectifs, etc., il y a beaucoup de personnes cis hétéros. Et comment est-ce que moi, en tant que personne queer, je vais pouvoir m'intégrer à un groupe où il n'y a que des personnes cis hétéros, à un groupe où je vais devoir éduquer les personnes à ma façon de voir le monde et de vivre ma vie, parce qu'il y a tellement d'autres façons de faire famille aussi. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai pu exprimer en arrivant ici, c'est que c'était important pour moi qu'il y ait de l'ouverture à ce qu'il y ait d'autres façons de faire famille. Et je pense que quand les collectifs se créent dans l'établissement de leurs valeurs, de la vision commune, etc., c'est important de rendre ça visible. Et à la fois, ben je constate en étant dedans que c'est juste pas la réalité de plein de personnes. Et j'ai la sensation, du coup, qu'il y a un grand besoin d'éducation. Mais là, au niveau national ou mondial, hein, mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, se rendre visible, effectivement, ça en fait partie. Mais à la fois, je trouve pas ça juste que ça repose sur les épaules des personnes minorisées d'à chaque fois devoir éduquer les gens sur ça.
Alors, c'est la place du village.
Et c'est ça, ouais. C'est la zone de vie. François aime bien l'appeler la place du village, effectivement. Non, juste là, et en face du sauna, là.
Voilà, c'est ça, en ouais. Face de la cahute sauna.
Oui.
Oh, waouh, ça, c'est cool.
Ouais, ça, c'est vraiment chouette. Et le sauna, il a quelque chose de particulier où c'est... Bah, ça rapproche les gens. En plus, après, chaque personne, il va habiller ou non, mais c'est une petite maison comme ça où il fait chaud à l'intérieur et où les... La parole se libère, c'est intéressant.
J'ai ouais. Envie de rentrer dedans et voir ce qui s'y passe.
Ouais, la boîte magique. Ce qui a motivé aussi mon envie de rejoindre une communauté rural, c'était de faire village, en fait, de pouvoir mutualiser plein d'objets, de pouvoir, s'il faut, garder les enfants de telle famille et se soutenir là-dedans. C'est vraiment dans une idée de solidarité à la base, quoi. Ne serait-ce que moi, là, partager que je suis une personne queer dans un milieu alternatif et pourtant entourée de personnes cis-hétéro, peut-être que ça peut permettre à d'autres personnes, dans mon cas, de le partager aussi. C'est peut-être un début, ouais. Mais après, franchement, pour dire les choses clairement, je suis vraiment entre ces deux choses, de me sentir hyper isolée et avoir sentir une responsabilité qui est trop lourde pour moi en tant que seule personne queer de mon collectif. L'écologie, c'est prendre soin de notre environnement. Et la queerness, c'est respecter qui on est et pouvoir l'afficher, pouvoir le partager, pouvoir l'afficher, peut-être pas. Parce que chaque personne a son cheminement avec ça. Mais ouais, pour moi, c'est indissociable. Ça rentre dans le féminisme intersectionnel et l'écologie queer. L'écoféminisme, un peu moins, parce que... bon, il y a plusieurs courants visiblement d'écoféminisme, mais l'essentialisme potentiel qu'il y a là-dedans ne fait que je m'y reconnais plus. L'idée, c'est pas de convertir à devenir comme, enfin, queer ou quoi, mais c'est juste d'accepter les autres pour ce qu'elles sont. Si vous êtes là, si vous m'entendez, je suis à la source des Corriganes. Venez, on fait des défilés non-gender conforming.
Moi, j'ai trop envie d'y aller, à la source des Corriganes, du coup.
Oui, on a l'air de bien Emily. Se marrer. Vraiment, c'était un trop chouette moment et c'est vraiment un lieu magique. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez les rencontrer, vraiment. Et j'ai discuté avec Emily depuis. Parce que ça, c'était en janvier. Et elle m'a dit qu'elle s'était rapprochée de l'asso Queerland à Saint-Brieuc. Bon, déjà, j'adore le nom Queerland. ce qui est quand même à 30 minutes de son écolieu. Et qu'elle était en train de commencer à un peu faciliter la rencontre des lieux alternatifs, d'intégrer le réseautage queer du coin. Mais bon, que ça prenait quand même du temps de fédérer tout ce beau monde. Parce que bon, voilà, ce qu'elle disait dans le podcast, c'est que parfois, c'est souvent isolé. Et ce que je peux confirmer en vivant un petit peu à la campagne. mais on va se rassembler. Donc vous pourrez retrouver cette partie dans le prochain podcast qui contiendra aussi les deux autres reportages que j'ai enregistrés en janvier. Je vous tease un peu, j'ai rencontré Simone du Moulin Cause. C'est une maraîchère lesbienne qui cultive plus de 200 variétés anciennes de légumes. Et Karine du JT Queer Écolo au 7e, tout ça en Centre-Bretagne. Et le podcast, il sortira prochainement. Mais je ne suis pas capable de vous dire quand, parce que j'ai fini le montage d'Emily genre hier à 23h. Donc en fait, ne me mettez pas la pression, je suis anticapitaliste du temps. Hein, ça va.
J'en profite pour préciser qu'en fait, on va sortir un nouveau genre de podcast grâce à tes émissions. En fait, ce sera des formats que vous ne pourrez pas retrouver en direct.
Et oui,
c'est très spécifique. Donc généralement... On va essayer de diffuser une petite partie comme on l'a fait là en live. Mais pour le gros du podcast, il faudra nous retrouver sur les applis. Donc ça, c'est très cool. Pour l'instant, c'est un des seuls projets qui est acté et qui est enregistré. Mais on a tout plein d'autres idées pour aussi faire vivre Queer Me Out en dehors des heures du direct. Quoi. Voilà. Parce qu'en plus, on est plusieurs à kiffer faire du reportage. Et c'est un exercice qui est très différent et qui est très agréable. Et... voilà, donc
ah
du
bah
coup,
ouais, rencontrer des gens.
Ah, on adore sympa. Rencontrer des gens. Bah, du coup, on est là pour vous faire kiffer, qu'est-ce que je vous dis. On est des kiffman.
Qu'est-ce qui kiffe. Et ben merci, chers auditeurs, pour votre écoute. On va clôturer cette carte blanche. Vous pourrez retrouver Clémentine et son enquête sur les militantes lesbiennes à la Gouinerie, organisée par les Gouineries au beurre salé à l'Hôtel Pasteur le 20 mai. Moi, je vous partage aussi un petit événement cet été, bon, qui n'est pas en Bretagne, mais un événement queer écolo, c'est le festival Les Arts Festival. C'est aux alentours de Poitiers, le 25 et 26 août prochain, un festival queer, rural et lesbien. Il va Clem ? Bah trop bien.
Clem il va visiblement.
Et bah, merci à tout le monde, Clara, Félix, Clémentine, Mado, Ben en soutien de la technique de Félix. Vous retrouvez cette émission sur le site de la radio Syllab et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Nous on se retrouve le 4 mai pour une nouvelle émission et d'ici là portez-vous bien. Je vous laisse cette fois sur une musique au rythme un peu plus fun, toujours écolo mais avec une lesbienne aux commandes. Pour finir en beauté, vous prouver que l'écologie c'est cool quand même. Bye bye, on
salut.
Écoute Suzanne.
Dans la vie, il y a des plastique high sur les plages de Koh Lanta. Derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savez. On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savez. On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le sauver. On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le sauver. On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Puis je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV.
J'adore dire radio sauvage.